Fabienne Buccio est la première femme préfète du département du Pas-de-Calais depuis février 2015. On l'a rencontrée à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. On évoque avec elle son parcours.
J'ai effectivement dans ce métier du corps préfectoral un parcours un peu atypique, déjà parce que je ne suis pas énarque, mais la voie royale c'est l'ENA, l'École nationale d'administration, pour entrer dans le corps préfectoral. Effectivement, moi ce n'est pas mon parcours, c'est vraiment très atypique parce que issu effectivement d'une famille modeste, hein, mon père était ouvrier en bâtiment, il était peintre en bâtiment et ma maman travaillait dans un centre de formation des apprentis, elle faisait le ménage, hein. Mais j'ai des parents, mais j'ai la chance de les avoir tous les deux, formidables, hein. Des parents aimants qui m'ont donné des valeurs du travail, puis valeurs de l'école, de l'instruction. Moi j'ai fait des études, j'étais pas une mauvaise élève, hein, faut quand même dire ça, et arrivé au bac, je me souviens que je comptais arrêter après le bac, parce que c'était déjà bien avoir le bac dans ma famille, et c'est les enseignants qui sont allés voir mes parents, qui leur ont dit, écoutez, c'est quand même dommage qu'elle arrête après le bac, il faudra au moins qu'elle fasse bac plus 2. Et à l'époque, moi j'habitais une petite ville, hein, Gap, dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas d'université, il n'y a rien, donc ça voulait dire aller à la grande ville, à Grenoble ou à Marseille. Mais mes parents ont toujours, ce qui les a toujours guidés, c'était mon intérêt à moi. Et ils ont dit, si c'est bien pour elle, si elle le veut, et moi je le voulais, j'avais 17 ans, je trouve que c'était bien de continuer les études, mais comment on va faire financièrement pour lui assurer ça? Et ils ont dit, mais il n'y a pas de souci, on va monter un dossier, elle sera boursière. Et effectivement, l'État français m'est venu en aide. J'ai intégré un IUT à Grenoble, un IUT de gestion, hein, GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et là aussi, en seconde année, mon directeur de l'IUT m'a dit il y a un concours qui existe qui s'appelle le concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration. J'ai passé ce concours, mais très honnêtement, alors je sais, ça peut paraître bizarre quand je dis ça, mais mon objectif, c'était pas vraiment ça, puisque j'avais rencontré mon mari, c'était de rentrer dans mes Hautes-Alpes, rejoindre mon département chez moi, de me marier, et voilà. Et il se trouve que j'ai réussi l'écrit de ce concours, et que quand on a réussi l'écrit, on a quand même de la fierté, et on se dit, maintenant, il va falloir confirmer, il va falloir passer l'oral. Et je suis allée, pour la première fois de ma vie, je suis allée à Paris. Je suis allée passer l'oral du concours d'entrée à l'Institut régional d'administration. Et ça ne s'est pas si mal passé, puisque j'ai été reçue. Je suis rentrée dans une école de l'État. Et j'ai étudié pendant 2 ans, en ayant, encore une fois, un salaire de l'État. Même si je m'étais engagée à travailler au moins 10 ans pour l'État. Et j'ai, pendant 2 ans, suivi des cours à l'Institut régional d'administration de Lyon. C'est celui qui était le plus près de les Hautes-Alpes. Voilà. Et après, je suis rentrée dans l'administration de l'État. J'ai choisi la préfectorale. Parce que, très honnêtement, c'était l'administration qui me permettait le plus vite de rejoindre les Hautes-Alpes, et par le fait qu'il y a beaucoup de préfectures, de sous-préfectures. Quand je suis sortie de l'IRA, 2 ans après, il n'y avait pas de poste dans les Hautes-Alpes. Il y avait un poste dans les Alpes de Haute-Provence. J'ai sollicité ce poste. J'ai été nommée dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne. Et puis là, j'ai commencé ma carrière de cadre A. Après, j'ai été mariée, j'ai eu mon premier enfant. Après sa naissance, si j'ai ma mutation dans les Hautes-Alpes, je ne demanderai pas de congé parental. Je reprendrai immédiatement mon travail. Par contre, si je suis à Digne, éloignée de mon mari, je serai obligée de prendre un congé parental. J'ai eu ma mutation, j'ai tenu parole, j'ai intégré la préfecture des Hautes-Alpes. Et voilà. Alors après, j'ai été attachée de préfecture. 8 ans après, je pouvais passer ce qu'on appelle le concours d'attaché principal. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de réussite dans les concours, c'est comme ça, hein. J'ai toujours aimé les études, apprendre, j'ai toujours été curieuse en fait. Et j'ai réussi le principal là, et j'étais donc attachée principale, et là j'ai rencontré des préfets pour lesquels je travaillais, j'avais 32 ans, j'étais une jeune directrice de préfecture, et ils m'ont dit, Fabienne, il faut que vous réfléchissiez, parce que vous êtes au sommet de la hiérarchie des cadres de préfecture, et à 60 ans, vous serez toujours directrice de préfecture. Et vous risquez de vous aigrir, de dire « j'ai tout fait, j'ai tout vu, je ne suis pas reconnue, je ne peux plus progresser ». Et c'est là qu'ils m'ont dit « il faudrait peut-être songer à regarder du côté du corps préfectoral ». C'est la démarche que j'ai faite, mais je ne l'ai pas faite toute seule, hein, puisque j'avais un mari, 2 enfants, un second était né. C'est une démarche que l'on a faite en couple, sachant que mon mari est Alors, il n'aime pas quand je dis ça, mais a été vraiment formidable parce qu'il était chef d'entreprise. Quand je lui ai dit, ben voilà, j'ai la possibilité de partir dans ce métier, de devenir directrice des services du cabinet, c'est une première étape avant d'intégrer le corps préfectoral. Mais je lui ai dit, je peux être nommée n'importe où en France. Ben, il m'a dit, écoute, c'est ton avenir, ça serait moi, tu me suivrais, donc je ne vois pas pourquoi je ne te suivrais pas. Mais il a tenu parole, il m'a suivi. Puis après, j'ai intégré, j'ai passé le grand oral pour intégrer le corps préfectoral. Voilà, et j'ai été sous-préfète, puis préfète. J'ai fait plusieurs postes de sous-préfète. Alors, j'ai fait comme département l'Orne, la Haute-Loire, la Corrèze. J'ai une petite anecdote. J'étais directrice des services du cabinet en Haute-Loire et j'intègre le corps préfectoral. Je passe l'oral, j'intègre, je suis nommée sous-préfète. Et le ministère trouve rien de mieux que de me nommer sous-préfète, directrice de cabinet en Corrèze. Sur le coup, je peux le dire maintenant, j'étais contente d'être sous-préfète, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai dit, il me nomme encore directrice de cabinet. Je l'avais été dans l'Orne, je l'avais été en Haute-Loire, certes, sans être sous-préfète, encore en Corrèze. Bon, et vous savez pourquoi j'ai été nommée en Corrèze? Parce que le poste de directrice de sous-préfète, directrice de cabinet en Corrèze avait été donné à la sortie de l'ENA pour les énarques. C'était au moment de la cohabitation. Et les énarques n'avaient pas pris ce poste, jugeant que c'était trop dangereux en période de cohabitation pour la carrière future. Donc moi, j'étais aux ordres, hein, j'étais fonctionnaire de l'État. On m'a dit du jour au lendemain, c'est la Corrèze. Je dois dire que je ne l'ai pas regretté d'aller en Corrèze. D'abord parce que j'ai adoré ce département. J'ai adoré servir l'État, travailler avec les préfets que j'ai eu l'occasion de servir dans ce département. Puis parce que j'ai rencontré un homme formidable qui était déjà président de la République à l'époque, qui a eu l'amitié, la délicatesse de remarquer la petite sous-préfète que j'étais. Il faut dire qu'on a eu des dossiers un peu difficiles. On a eu la tempête de 99. Et quelques années plus tard, alors que j'étais sur un autre poste, m'a fait appeler pour me demander si je voulais aller travailler à son cabinet. Voilà, une belle histoire, parce que travailler pour le président de la République, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle mission pour un fonctionnaire de l'État, de servir le citoyen. Vous voyez, c'est une histoire comme quoi c'est possible. C'est possible d'y arriver. J'oublie pas qui je suis, j'oublie pas d'où je viens. Je me souviens du chemin parcouru, mais je suis aussi très sereine dans mon métier, qui n'est pas tous les jours un métier facile. Hein. Vous savez qu'ici, j'ai des dossiers particulièrement compliqués, mais passionnants. Mais je sais d'où je viens, je sais où je suis arrivée et peu importe de quoi sera fait demain, je suis heureuse de l'avoir fait.
Nous sommes avec Fabienne Bouchot, préfète du Pas-de-Calais. Vous occupez un poste important. Est-ce que le fait d'être une femme change quelque chose ?
Être une femme dans ce métier, je pense que c'est différent. Pour moi, je ne me pose pas la question. Enfin, c'est tellement évident que homme ou femme, peu importe, on a les mêmes capacités, on a tous des forces, on a tous des faiblesses, qu'on soit homme ou femme. Alors, est-ce que c'est un plus ?
Pour étendre à la question, est-ce qu'il y a certains hommes vous ont pris pour une carriériste ?
Je pense pas avoir. Enfin, j'ai eu des anecdotes qui maintenant pourraient plus se produire parce que le ministère de l'Intérieur le tolérerait plus à juste titre. Quand justement j'étais en Haute-Loire, que j'ai été nommée en Corrèze, en fait, j'ai su que le poste où j'aurais dû être nommée, c'était DIRCAB d'un préfet de région dans une autre région française, et le préfet ne m'a pas voulu. Alors, il me connaissait pas du tout, hein. C'était pas Fabienne Bouchot qui refusait. Il a dit au ministère, oh non, j'ai toujours eu que des hommes directeurs de cabinet. Une femme, c'est pas pareil, je pourrais pas lui parler pareil. Et c'est pour ça qu'on a switché, que moi je suis allée en Corrèze et qu'un autre est allé dans ce poste-là. Enfin voilà, c'est des choses que le ministère de l'Intérieur tolérait plus. Je crois d'ailleurs qu'aucun préfet masculin n'oserait dire ce genre de choses. Peut-être que certains le penseraient, mais ils n'oseraient plus. C'était des choses d'un autre temps, je pense. Vous savez, moi il y avait peut-être plusieurs raisons pour que ce métier me tienne un peu à l'écart. Je me suis jamais sentie à l'écart. Et j'ai toujours été acceptée quand j'étais sous-préfète, comme dans le corps des préfets. Pourtant, je suis ni énarque, ni un homme. Je suis pas non plus arrivée en disant « c'est moi, vous avez vu, je suis arrivée ». Enfin, j'essayais d'être ce que je suis, hein, avec mes forces, mes faiblesses.
Voilà, je travaille, je suis une bosseuse, et je compte ni mon temps, ni ma... J'ai souvent eu des postes un peu compliqués, donc je crois que je me suis fait reconnaître par mon travail, et c'est l'essentiel.
Est-ce qu'il y a des figures féminines qui vous ont inspiré dans votre parcours ?
Oui, mais pas tellement des figures actuelles. Je suis plus allée les chercher plus loin dans l'histoire de France. Alors, bon, bien sûr, il y a Olympe de Gouges, hein, cette révolutionnaire. Alors, je ne suis pas révolutionnaire, hein, quoique. Mais cette femme avant-gardiste qui était vraiment exceptionnelle. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration pour une écrivaine qui est Colette. Parce que je trouve que cette femme, à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a osé, alors qu'elle sortait d'un petit milieu bourgeois coincé, a osé avoir une vie de femme libre. Et je me dis que actuellement, la Colette passerait pour quelqu'un de tout à fait classique, mais qu'à l'époque, quel courage elle a eu, cette femme-là, d'être ce qu'elle est, d'affronter les préjugés, le qu'en dira-t-on, d'être une femme libre dans son propre milieu et dans cette société du début du XXe siècle qui n'était pas tendre avec les femmes. Voilà, alors j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que moi je suis plutôt une femme réservée et dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Bon, actuellement je suis assez exposée médiatiquement, mais c'est mon travail qui veut ça. C'est pas ce que je goûte le plus, à vrai dire. Mais je le fais parce que je sais que c'est important. Mais j'aime aussi parler de mon métier. Parce que j'aime ce métier. Je trouve que servir l'État, c'est un beau challenge. Et puis surtout parce que j'ai vraiment le sens de l'intérêt général. Et servir l'État, c'est servir le citoyen. Et ça, c'est pour moi essentiel.
Alors, la préfecture organise plusieurs manifestations, dont une à Béthune le 8 mars qui s'appelle « Femmes remarquables du nord de la France », où l'ouvre lance l'exposition « Portrait de femmes, 62 figures du Pas-de-Calais ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Écoutez, c'est une exposition qui est montée à l'initiative d'une association hein, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je trouve que c'est bien de mettre en valeur des femmes, qu'on a besoin de repères. Quand on est femme dans un métier différent, on peut se sentir un peu seule à un moment donné, de se dire « mais est-ce que je suis bien à ma place ? Qu'est-ce que je fais là ?» Tiens, c'est marrant, en le disant, je me suis jamais posé cette question à moi-même. Mais d'autres femmes me l'ont dit et voilà, en faisant cette exposition, on montre que c'est possible, qu'il faut oser. J'ai souvent des jeunes stagiaires de l'ENA et j'ai eu, bon là j'avais un jeune garçon, j'avais Nicolas, mais j'ai eu avant deux jeunes femmes dans mon autre poste et je leur dis souvent faites attention, la vie vous appartient, vous êtes de jeunes énarques, vous êtes des filles brillantes intellectuellement, ayez bien votre côté humain, mais elles l'avaient toutes les deux, soyez simples, mais je leur dis surtout n'essayez jamais de ressembler à des hommes. Pas parce que j'ai pas de respect pour les hommes, j'ai un infini respect, puis je suis maman d'un garçon. Mais il faut pas chercher à ressembler à ce qu'on n'est pas, c'est ça que je veux dire. Quand on est femme, on est ce qu'on est. Moi, je me sens supérieure à personne, mais je me sens inférieure à personne. Je suis comme je suis, on m'aime, on m'aime pas, peu importe. Je suis ce que je suis, et je trouve que pour une femme, le pire des défauts, c'est de vouloir ressembler à un homme, parce qu'à ce moment-là, on prend souvent les défauts des hommes sans prendre leurs qualités.
Vous pensez à quoi comme défaut ou comme qualité chez les hommes ?
Les hommes, on dit souvent, un homme, c'est de l'autorité un homme. Et alors nous, quand on veut jouer à ça, on fait de l'autoritarisme. L'autorité, moi, je me suis jamais posé la question de l'autorité. Moi, je suis pas quelqu'un qui crie, je suis pas quelqu'un qui m'énerve. Ça se passe naturellement. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à jouer un rôle. Il faut être ce que l'on est. Et puis, il faut croire dans ce que l'on fait.
Nous sommes toujours en compagnie de Madame la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bouchot. On a parlé d'égalité homme-femme. On peut parler d'égalité entre femmes. J'ai une question peut-être un peu piquante. Comment vous voyez le sort réservé aux femmes migrantes, notamment à Calais ?
C'est un sujet important qui m'a beaucoup préoccupée. Alors déjà, les femmes migrantes à Calais, moi ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis ce dossier avec beaucoup d'attention, beaucoup de passion aussi, et puis j'y mets beaucoup de cœur, j'ai pas honte à le dire. Quand je suis arrivée, le camp de la Lande n'existait pas, il y avait d'autres camps, il y avait environ 1200-1500 personnes réparties dans plusieurs squats, dans un squat quand même de 800 personnes, ce qu'on appelait le squat, le camp Turkside. Il n'y avait pratiquement pas de femmes, pratiquement pas. la population migrante a évolué au fil des mois. On a commencé à voir arriver les femmes au cours de l'année dernière, au cours de l'année 2015. Le camp de la Lande s'était déjà installé. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur alerté. Tout de suite, on a mis les femmes à l'abri, les femmes isolées, ce qu'on appelait les femmes isolées avec enfants ou sans enfants d'ailleurs. Pour une femme migrante, vivre au milieu de cette communauté, aux mains des passeurs, elle subissait des choses pour protéger leur enfant ou pour payer leur passage. Tout à fait inadmissible. En tant que femme, pour moi, c'était... Mais pas un homme peut aussi ne pas le supporter. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment insupportable. Donc, c'est là qu'on a créé d'abord 100 places pour les femmes à l'abri au sein du centre Jules Ferry, donc dans un bungalow qui a été installé, bien sûr, que l'État a installé. On en a confié la gestion à la vie active. Les femmes sont arrivées de plus en plus nombreuses. On a ouvert 200 places. Maintenant, nous avons 400 places pour les femmes isolées ou femmes avec enfants. Il restait des femmes qui restaient quand même dans la Lande parce qu'elles avaient un compagnon et qu'elles préféraient rester avec leur compagnon, ce qui était leur liberté, mais ce qui n'était quand même pas satisfaisant. Et avec l'ouverture du centre d'accueil provisoire, on a vu arriver les familles, les femmes, les maris, les enfants. Et ça, ça a été vraiment un plus considérable. Néanmoins, la situation des femmes dans toutes ces camps de misère n'est pas une situation enviable. Les femmes, les enfants, tout ça fait partie des populations plus fragiles, puisqu'il y a une chose que nous n'avons pas et qu'ont les hommes, c'est la force musculaire. Nous sommes vite dominés physiquement, même si on peut être meilleur par ailleurs. Et donc, on peut se retrouver tout de suite en sentiment d'infériorité physique, donc subir des brimades et pire. Donc c'était important de faire cesser ça, et c'est pour ça que les femmes mises à l'abri, les enfants mises à l'abri, mais il y a aussi des hommes qu'il faut mettre à l'abri. C'est pour ça que je me bats, je trouve que c'est un peu parfois inégal, parce qu'on a en face certains activistes qui portent le discours contraire en faisant des opérations médiatiques inadmissibles. Moi, mon combat sera gagné quand il n'y aura plus de camp de la Lande et quand tout le monde aura un abri digne, et nous nous sommes mis en situation de proposer un abri digne à chacun. Voilà, ça va au-delà des femmes.
Justement, ces femmes-là peuvent rester combien de temps dans ces camps-là ?
Alors, dans les abris mis en place par l'État, tant qu'elles le souhaitent, hein. Quand elles sont dans ces, que ce soit un centre d'accueil provisoire, on leur conseille aussi d'aller en centre d'accueil d'orientation. Nous les engageons surtout à faire une demande d'asile en France, pour qu'une fois qu'elles ont fait une demande d'asile en France, on peut les installer durablement dans la société française. Voilà, donc elles peuvent rentrer dans ce qu'on appelle l'habitat ordinaire. Voilà, il y a une vraie suite. C'est sûr que si elles ne demandent pas de l'asile, elles-mêmes, elles ne vont pas rester un an, deux ans dans ces structures. Ça arrive rarement qu'elles repartent en errance. En général, une femme qui a des enfants, elle pense d'abord à ses enfants et à quelle est la bonne solution pour eux. Et quand elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas passer en Grande-Bretagne, souvent elles demandent l'asile en France.
À la préfecture, il y a une délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette action ?
Alors, c'est quelque chose qui est pas récent, hein. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une déléguée départementale aux droits des femmes. C'est une mission importante, c'est-à-dire qu'elle mène une politique transversale dans toutes les politiques publiques de l'État. Si elle se pose la question, et les femmes dans cette politique-là, quelle est la place des femmes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes ? Donc en ce moment, je ne vous cache pas qu'elle réfléchit justement à encore faire plus pour les femmes migrantes dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi les femmes dans ce qu'on appelle les quartiers sensibles, la place de la femme, son rôle, comment elle peut nous aider aussi à faire évoluer les choses, hein, parce que moi je crois beaucoup dans les femmes, puis il y a les femmes issues de l'immigration. Je veux bien croire dans les hommes, mais je crois beaucoup dans les femmes, parce que les femmes issues de communautés étrangères ont tout à gagner en devenant des femmes françaises, parce que être femme en France, c'est un bonheur. Quand on intègre les femmes, on intègre les enfants qui naîtront de ces femmes, et ça c'est important. Voilà, donc pour vous expliquer, la déléguée aux droits des femmes, elle fait tout ça. Elle travaille beaucoup en lien avec avec les associations aussi qui s'occupent de femmes, que ce soit le Centre d'information des droits des femmes et des familles, mais il y a beaucoup d'associations, soit départementales, soit territoriales, pour financer les expositions dont vous parliez tout à l'heure. Chaque fois qu'on peut les aider, chaque fois qu'on peut les financer, on le fait aussi avec un budget venant de la délégation, et une délégation nationale, une délégation régionale et une délégation départementale aux droits des femmes. Je trouve qu'être déléguée départementale aux droits des femmes, c'est quelque chose qui m'aurait plu. C'est pas être une militante de la cause féminine, c'est simplement tenir la place des femmes, et c'est bien.
Alors, toute dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que femme et préfète du Pas-de-Calais aux auditeurs et auditrices de PFM?
Bon, écoutez, puisqu'on est sur la thématique de la femme, je voudrais leur dire que je suis d'abord très fière d'être la première femme préfète du Pas-de-Calais. C'est pour moi un honneur, j'espère en être digne. J'ai conscience aussi, on parlait tout à l'heure, que c'est une vraie responsabilité. Les hommes et le citoyen, même les autres femmes, portent toujours un regard différent sur une femme qui a un poste de responsabilité. On doit toujours prouver plus quand on est femme. C'est comme ça, je vis avec. On va plus pardonner aux hommes, on sera plus indulgent. Une femme, on va vite dire, évidemment, c'est une femme. Mais bon, c'est comme ça, ça passera, ça passera. Donc, une grande fierté à ceux qui nous écoutent. Je voulais leur dire que je suis très fière d'être la première femme préfète du Pas-de-Calais, qui ont un département magnifique, qui est vraiment porteur d'avenir. Ils ont des qualités, mais ils sont trop modestes. C'est un peu les défauts des gens du Nord. Il faut savoir oser être fier de son département. Moi, quand je suis arrivée, première personne que je rencontrais, il s'excusait presque que je sois nommée dans le Pas-de-Calais en me disant « Oh là là, ma pauvre dame, plus vous êtes une dame du Sud, venir dans le Nord !» Mais on est très bien dans le Nord, donc je suis heureuse d'être là. Et puis, je voulais aussi dire aux femmes du Pas-de-Calais qu'elles soient fières d'être des femmes de ce département, qu'elles soient fières de le dire. Et en tout cas, moi, je suis fière d'être leur préfète.
C'était Fabienne Bouchot, préfète du Pas-de-Calais, que l'on a rencontrée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Plusieurs événements sont proposés par les sous-préfectures du département dans le cadre de cette journée, dont l'exposition 62 portraits de femmes du Pas-de-Calais au musée du Louvre-Lens.